CFM Villefranche, le mag.
Allez, zoup, la balbe, truc, chub, dupe, le mag, oui, bon début de semaine et bienvenue si vous venez de nous rejoindre, édition du mag Aveyron, santé, bien-être, fleurette, pâquerette, avec Karine Justeau pour cette première partie d'édition, nutritionniste, diététicienne et intervenante en goût, Karine Vec Justeau. Un petit peu plus tard, c'est le retour de Didier Valette, sommité fleurie en biodynamie. On poursuit notre exploration de cette technique agricole. Didier Valette, haut et grand spécialiste également des plantes aromatiques et médicinales. Didier Valette a une réputation nationale, faut bien le dire. Karine, bonjour.
Bonjour David.
Oh, vous étiez là?
Je ne vous ai pas vu, moi j'étais dans mon truc. J'écoute attentivement ce que vous présentez pour la suite.
De quoi allez-vous donc nous... Ah bah, la chandeleur, les crêpes.
Voilà,
les crêpes,
hein, oui. C'est après-demain, c'est... en plus ça tombe bien, c'est un mercredi, donc c'est sympa à faire avec les enfants.
D'accord, ok, je suis totalement largué sur ce genre de date, ça peut être toute l'année aussi les crêpes, c'est
bien
bon.
Bien entendu, hein. Ça peut être toute l'année, mais bon voilà, la tradition veut que le jour de la chandeleur, on fasse des crêpes.
Vous allez nous livrer les secrets aujourd'hui de la recette à tomber par terre pour faire des crêpes.
Vous savez que je ne suis pas une super cuisinière quand même, David. Hein, vous savez, depuis
même,
le temps qu'on fait toutes ces chroniques ensemble.
Peut-être pas super cuisinière, mais très organisée, affûtée.
En tous les cas, une petite minute culturelle par rapport aux crêpes. Hein, je trouve ça toujours intéressant de savoir d'où viennent nos coutumes, etc.
Les origines, oui.
Les origines, exactement. Il faut remonter, figurez-vous, au 5e siècle, pour comprendre cette tradition. Et à cette époque-là, en fait, c'était cette date-là, c'était la présentation de Jésus au temple, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment une fête chrétienne qui se déroulait, donc, si vous comptez bien, 40 jours après Noël. Et donc, de ce fait-là, il y avait des processions qui étaient organisées dans toute la ville, etc. Et c'était des processions avec des chandelles, d'où le nom de la chandeleur, vous avez compris. Et qui plus est, à cette époque-là également, le pape, qui s'appelait Gélase à l'époque, enfin peu importe, avait décidé d'offrir des galettes, tout simplement, à tous les pèlerins qui passeraient par Rome. Hein, donc voilà, l'association entre la galette, la chandelle, etc., a donné la chandeleur et a donné cette tradition de manger des crêpes à cette date-là. Si je reviens sur quelque chose d'un petit peu plus païen, on pourrait aussi imaginer que la chandeleur fait référence à la fertilité de la terre. Hein, c'est le début de la lumière, du soleil, du printemps qui va bientôt arriver. Et puis surtout à cette époque-là, il fallait donc finir ce qui nous restait de l'année passée, et notamment la farine. Figurez-vous que dans certaines superstitions, il y avait plusieurs choses qui sont assez rigolotes, je trouve. C'est que, par exemple, jeter une crêpe par-dessus l'armoire, en théorie, assurerait d'avoir, financièrement parlant, une très bonne année. Donc, vous voyez, ça peut être sympa de faire ça, par exemple.
On ne joue pas avec la nourriture, déjà, et ce n'est pas un peu gâché, non?
Oui, c'est vrai, je vous parle de tradition, là, David.
Bon, donc, d'accord.
Détentez-vous et tout ira bien.
Non.
Savez-vous que pourquoi est-ce qu'il y a des crêpes en Bretagne alors?
Des crêpes
parce
en
que
Bretagne.
Voilà, les crêperies sont souvent bretonnes.
Parce qu'il y a de la super farine de sarrasin.
Alors presque, effectivement, ça vient du nord plutôt de l'Europe, mais en fait ce sont les Hollandais qui ont introduit le blé noir justement en Bretagne. À l'époque, il faut bien considérer que c'était un plat du pauvre, ça reste quelque chose de peu onéreux aujourd'hui. Mais ce qu'on appelle les galettes bretonne, ça n'est ni plus ni moins de la farine de froment, donc avait été introduite par ces fameux Hollandais. Et puis, un petit peu plus de... un peu d'eau, et voilà. Donc, vraiment, le plat du pauvre, comme on dit. Et d'ailleurs, ça me permet tout de suite de vous dire qu'au niveau purement nutrition, purement diététique, effectivement, de manger des galettes, c'est quand même quelque chose d'intéressant par rapport à la pâte des crêpes sucrées dans laquelle on met du lait, par exemple, puisque là, ça n'est que de la farine, de l'eau, et bien sûr, un petit peu de sel aussi, si on le souhaite. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est très peu cher. On peut y rajouter un œuf, mais un seul œuf va suffire. Dans la pâte, je veux dire.
Ah oui, d'accord. Okay.
Dans la pâte, mais un seul œuf suffit. Donc, nutritionnellement parlant, c'est très intéressant aussi. D'accord ?
Parce que c'est pas mal les crêpes salées, là, ça me donne envie en plus.
Ça vous donne envie.
Ouais,
alors,
ouais.
On peut les saler, vous avez raison, comme on le voit traditionnellement, avec un œuf, justement, qu'on va casser dans la galette. On peut y rajouter du fromage, du jambon si on a envie.
Oui, des petits lardons.
Du petit lardon,
du cabécou,
par exemple.
Ah ouais,
mais aussi, on peut avoir des versions plus légères, comme on peut y mettre, par exemple, une fondue de poireau ou de poivron, ou y mettre juste peut-être un petit œuf, mais y ajouter tout un tas de légumes. On n'est pas forcément obligé d'y ajouter beaucoup de gruyère, etc.
Bon, après, on est encore au mois de janvier, faut se reconstituer, faut prendre des forces aussi.
Vous m'avez pas l'air déconstitué, David, en même temps.
Justement, parce que je m'alimente bien.
Parce que vous écoutez attentivement les chroniques, ça doit être ça.
Ouais, je sais pas.
Par rapport aux gruyères, effectivement, et surtout si on a envie de manger plusieurs galettes, peut-être ce qu'on peut faire, c'est une petite astuce peut-être pour alléger le tout, c'est remplacer l'emmental râpé par du parmesan. Vous savez que dans la mesure où c'est sous forme de poudre, allons-nous dire, du coup, ça nous permet d'en mettre peu pour avoir quand même cette fameuse saveur du fromage. Ou bien utiliser, je vous en parle souvent dans ces chroniques, pardon, mais la cancoyotte.
Oh,
ah, mais c'est très bon la
cancoyotte. C'est une spécialité laitière de l'Est de la France. Oui, de Besançon.
Voilà, et ça fond, et c'est très bon. Il en existe au vin jaune, il en existe à l'ail, et c'est très sympa, et ça peut améliorer le tout.
C'est Hubert Félix Thieffen qui en a fait une chouette chanson de la cancoyotte.
Au niveau diététique, toujours, si vous voulez faire attention, alors on peut faire les crêpes de façon tout à fait basique, hein, et vous savez combien j'aime le fait d'imaginer pouvoir compenser les choses. Si on mange un petit peu plus lourd à un repas, on fait l'inverse l'autre, etc. Néanmoins, dans la base et dans la pâte de la crêpe sucrée, on peut aussi imaginer couper un petit peu avec, par exemple, de l'eau. Ou si l'on souhaite sucrer directement la pâte, mais qu'on n'ait pas envie d'avoir un ajout de sucre trop important, on peut mixer avec la pâte des rondelles de pommes, ce qui va donner un petit peu le goût de sucre et qui va éviter d'en rajouter.
Allez, pardon, je vous écoute plus, je suis resté bloqué sur le parmesan que vous avez présenté tout à l'heure, la parmesan, j'ai que ça en tête là.
Ah, bon,
c'est dingue, on peut
tête.
En mettre partout du parmesan.
Bien
en plus,
sûr, vous pouvez remplacer tous les plats avec du gruyère, remplacer avec du parmesan, c'est bon.
C'est ultra dangereux comme aliment le parmesan.
Pourquoi ?
Alors, on est tenté d'en mettre partout.
Oui, mais vous en mettez peu. Une cuillère à café, une cuillère à soupe, c'est bien suffisant. Si vous pesez et que vous comparez avec un poids de gruyère que vous allez mettre dans le gratin, c'est sans commune mesure, David.
Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que c'est bon ? On a envie d'en mettre partout, dans l'entrée, dans le plat.
Alors d'après vous, David, par rapport aux crêpes, pourquoi c'est important de laisser cette pâte reposer ? Vous savez, on dit souvent, on la remet la pâte une fois qu'elle est faite, on la met au frigo quelques instants, une heure, deux heures.
À mon avis, c'est chimique, non ?
C'est chimique, c'est exactement ça. Ce sont les protéines de blé, en fait, hein, pour info, qui s'appellent la gluténine et la gliadine, peu importe, mais qui, en reposant, vont s'entremêler, vont gonfler, et le résultat, ce sera d'avoir des molécules qui vont être plus solide et donc une pâte qui va être plus souple. Bien sûr, on peut faire des crêpes au pied levé, hein, sans laisser reposer la pâte, ça marche un petit peu. Ça marche aussi, je veux dire, mais la crêpe, dans ces cas-là, sera un petit peu plus cassante.
Alors, il y a la qualité de la pâte,
oui.
Mais il y a aussi la qualité de la poêle, quand même.
Ah, tout à fait, hein? oui, là, effectivement.
Quelle poêle pour les crêpes ? Alors, il en existe des toutes plates, tout ça,
Ça s'appelle les crêpières, hein, donc ça, c'est idéal par rapport à la taille. Mais sinon, en tout état de cause, d'avoir des poêles avec des vêtements anti-adhésifs qui vont permettre de limiter la matière grasse, ça va aussi être intéressant pour limiter l'apport énergétique total du repas.
Beurre ou pas, avec un peu de sopalin ou du coton sur la poêle
Tout à fait, ou avec un petit passeau aussi, ça peut être aussi un petit peu d'huile. Pinceau. On n'est pas forcément obligé de remettre de la matière grasse à chaque crêpe. Hein, on le voit, hein, quand ça commence à coller, on en remet un peu, mais on n'est pas obligé d'en mettre à chaque crêpe. Hein. Il y a aussi les petites mini crêpières là, qui peuvent être sympas pour faire un repas un petit peu plus festif, vous savez. Voilà. Juste de façon un petit peu plus anecdotique, est-ce que vous mangez les crêpes, vous, par la pointe ou par les bords hein?
C'est comme la banane, par tous les bouts c'est bon.
Par tous les bouts c'est bon, c'est vrai, le truc c'est que quand on commence par la pointe, on a plus de risques que tout déborde, hein. Donc par rapport au petit par exemple, on peut commencer par, vous savez, le bord, hein, et comme ça la garniture reste bien dans le bout. À l'inverse, hein, si on mange d'abord par le bout, on mange d'abord ce qui est bon, donc voilà, c'est un peu plus la loose.
Dedans, ouais.
Ça, c'est chacun qui le voit comme il le souhaite.
Et ben voilà, une spéciale Chandeleur aujourd'hui, chronique nutrition, diététique, équilibre alimentaire. Et donc, c'est quand? C'est mercredi, hein, vous nous avez
c'est
dit.
Mercredi, c'est
donc
le
on peut commencer à faire chauffer les poêles et préparer la pâte.
Voilà.
Merci Karine.
Avec plaisir.
On retrouve l'intervention sous peu en podcast sur le site cfmradio.fr dans l'espace Diète News. Karine Weck-Justeau, donc nutritionniste, diététicienne, intervenante en goût. On peut prendre contact avec vous au travers de vos différents canaux de communication, page Facebook, compte Instagram, compte PokPok, TikTok et FlopFlop. Merci Karine. Excellente journée.
Au revoir.
À la semaine prochaine. La suite du programme, un peu de musique et en studio, Didier Valette. On poursuit notre exploration de la biodynamie avec Didier après la musique. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.
CFM Villefranche, le mag.
Vous venez de nous rejoindre suite de cette édition du magazine d'actualité. Les lundis, vous le savez, le mag Aveyron, santé, bien-être, fleurette et pâquerette. Avec pour cette deuxième partie, comme annoncé en studio, Didier Valet, sommité fleuri de la biodynamie et haut et grand spécialiste des plantes aromatiques et médicinales. Bonjour Didier.
Bonjour David, bonjour à toutes et à tous.
De retour en studio, j'arrête pas d'entendre parler de vous Didier depuis que vous intervenez sur l'antenne.
Ah
mais oui Didier, je sais bien, il a une notoriété nationale. Vous êtes intervenu partout sur le territoire pendant des années pour former des gens à la biodynamie.
Oui, pour former et puis surtout pour animer des groupes quelque part, parce que j'étais plus j'ai été président de la biodynamie, du syndicat d'agriculture biodynamique pendant quelques années, donc c'était plutôt un travail associatif que de formation.
On est depuis, ou presque depuis ce début d'année, dans la présentation des plantes qui vont servir à la préparation biodynamie. On explore cet univers, on chahute le cosmos avec vous un lundi sur deux. On a vu donc la première des plantes, l'Achillée millefeuille. On a enchaîné avec la matricaire camomille. C'était l'ortie il y a deux semaines. Si je suis le plan de bataille, on en est à l'écorce de chêne qui n'est pas une plante. On invite les auditeurs à écouter la première chronique du début d'année où vous avez replanté le décor sur ce qu'est une plante. Donc l'écorce de chêne aujourd'hui, en attendant le pissenlit pour le mois de mars et au printemps, cette histoire-là, et la valériane. Alors je ne connais pas du tout la valériane.
Oui,
l'écorce
alors,
de chêne aujourd'hui.
Bon, j'aime bien te surprendre, David. Alors aujourd'hui, comme tu attendais l'ortie pendant impatiemment, je t'ai fait patienter. Et là, je crois que je vais te faire patienter encore pour le chêne. Le chêne est en train de se préparer doucement. On est voilà, on vient de passer un mois de janvier, depuis début janvier, un temps très calme, très froid, très figé.
Un hiver intéressant.
Un hiver intéressant. Et le chêne, ben, il attend. Il attend, il attend. Et je crois qu'on va attendre un petit peu aussi pour parler de lui. Parce qu'il n'en sera que plus aise si on parle de lui quand ce sera le moment. Donc on ne va pas trop tarder quand même. Hein. Je pense que d'ici une quinzaine de jours, on pourra parler de lui quand même.
Me voilà rassuré. Mais là, il n'y a pas que le chêne qui est à l'arrêt. C'est l'ensemble de la végétation est à l'arrêt.
Voilà. Alors, je voulais vous reparler un petit peu quand même justement parce qu'on a pris comme base l'étude des plantes qui nous servent pour faire des préparations du compost en biodynamie, mais bon, il y a beaucoup d'autres substances aussi. Il y a la
fameuse corne de vache.
Il y a la bouse de vache qu'on utilise, il y a de la silice, il y a différentes choses dont on pourra parler. Mais avant tout, je voudrais reparler de ce que c'est que l'agriculture biodynamique. Oui. Donc, c'est une agriculture, bien sûr, donc un travail de paysan ou de jardinier, même en tout cas. Mais c'est une façon de penser, une façon de voir les choses à la nature de manière très holistique, c'est-à-dire de manière globale, où on ne sépare pas l'infiniment petit de l'infiniment grand. J'avais déjà pris l'exemple qu'avait donné Rudolf Steiner, le précurseur, il y a pratiquement un siècle déjà, en 1924, de la boussole, où on ne peut pas comprendre comment fonctionne une boussole, en seulement la regardant, on est obligé de projeter son esprit, sa conscience, à la limite de notre planète, c'est-à-dire d'imaginer qu'il y a un pôle sud magnétique et un pôle nord magnétique qui vont permettre à la boussole de s'orienter. Donc, on ne peut pas comprendre les objets seulement en les observant dans leur dans leur microcosme, si on veut, on est obligé de développer notre pensée jusqu'au macrocosme pour comprendre complètement. Et il disait de la même manière, on ne peut pas comprendre comment pousse une betterave en regardant seulement le milieu où elle pousse, on est obligé d'imaginer qu'elle a des influences qui viennent de très loin dans le ciel.
Est-ce que la biodynamie, c'est de travailler avec l'invisible ?
Alors, l'invisible pour le... Là, je vais prendre un...
Ça va terminer philosophico, je ne sais pas tout quoi, cette chronique.
L'invisible pour les yeux, mais le visible pour le cœur, je dirais.
Et poético, je ne sais pas tout quoi.
Oui, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir directement, ça ne veut pas dire que ça n'existe
Bien
pas.
Sûr. Donc, l'exemple de la boussole.
Donc voilà. Alors on travaille beaucoup avec ces choses-là, donc la compréhension des rythmes de la nature. Alors je voudrais revenir sur ce mois de janvier quelque part. Donc ce mois de janvier est très lumineux, très froid. On a l'impression, on peut pas toucher au sol du jardin.
Il
faut un marteau piqueur. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune vie ? Quelque part. Est-ce que tout s'est arrêté ? Extérieurement, oui. Dans ce qu'on voit, oui. Mais si on regarde un peu avec les yeux, d'autres yeux, quelque part, avec quelque chose de plus précis, on peut se rendre compte déjà que depuis Noël, à peu près, depuis le 21 décembre, le jour de l'hiver, les jours rallongent. C'est-à-dire que ça se ressent très fortement depuis une quinzaine de jours. De Noël au 15 janvier à peu près, bon, les jours rallongent, mais quelques secondes par jour, c'est pas énorme. Et à partir du 15 janvier, là, on voit la différence. Le matin, il fait jour plus tôt quand on part au lycée, au travail. Et le soir, ça rallonge aussi. Ça va beaucoup plus vite. Donc, on sent déjà qu'on est dans un rythme, un espèce de printemps, mais pas un printemps où tout explose. C'est un printemps en préparation. Vous pouvez voir que les noisetiers ont fait leur chaton. ils sont en fleurs, les noisetiers, quelque part. Les chatons, ce sont les fleurs mâles, hein, puisque dans le noisetier, comme dans le noyer, on a des fleurs mâles et des fleurs femelles. La fleur mâle, c'est un chaton qui a du pollen, et la fleur femelle, c'est une petite fleur qui est sur les aisselles des feuilles et qui va recevoir le pollen. Donc, déjà, on est dans un printemps du noisetier, pas du noyer, heureusement, parce qu'il serait gelé, on n'aurait pas de noix cette année. On peut voir les bourgeons des arbres commencer à gonfler quelque part. C'est-à-dire, le bourgeon, il va mettre quelquefois 2 ou 3 mois avant de s'ouvrir, mais il commence à gonfler.
Malgré ce froid intense.
Malgré ce froid. Tout cela nous indique qu'on a des forces invisibles, quelque part, des forces dans le sol qui sont très importantes et que déjà, à l'intérieur du sol, c'est le printemps. C'est le printemps à l'intérieur du sol. Alors, il y a eu des études scientifiques qui ont été menées. Dans le sol, en hiver, il se passe ce qu'on appelle la minéralisation de la matière organique. Alors, une matière organique, eh ben, voilà, c'est par exemple de la bouse de vache, c'est de la matière organique brute. Et cette matière organique ne peut être assimilable par les plantes que si elle est minéralisée. C'est-à-dire que les molécules qui la constituent vont être transformées en... Bon, c'est un peu de la chimie, c'est peut-être très loin pour les auditeurs. Ça va être transformé en matière ionique, en matière qui sont solubles dans l'eau. Et c'est par l'intermédiaire de l'eau que les plantes vont pouvoir absorber ces matières. Cette minéralisation, des études scientifiques ont montré qu'elles étaient la plus importante dans le sol entre le 15 janvier et le 15 février. On sent que ce printemps, il est là, mais il est invisible. Et c'est lui qui permet qu'au mois de mars, tout d'un coup, il va y avoir une explosion.
C'est
vraiment une explosion. Alors là, tu vas être content, David, parce que je vais parler
du pissenlit.
On pourra avoir une explosion du pissenlit au mois de mars et une explosion de pâquerettes. Toutes les fleurs du printemps, blanches et jaunes, les narcisses. Bon, on n'en a pas trop par ici, mais dès qu'on va vers l'Essac, dès qu'on va vers l'Aubrac, des champs énormes pleins de narcisses, les pissenlits. Donc, voilà, toute cette... essayer de comprendre un petit peu ces rythmes de la nature. Donc, on n'est pas encore au printemps, mais le printemps, il est là, il est sous terre, il est en préparation quelque part. Et sans cette préparation, sans ce travail en cuisine, le repas, il ne pourra pas être servi au mois de mars, quelque part. Et on ne voit pas ce qui se passe en cuisine. C'est caché à nos yeux. On ne peut le découvrir qu'avec notre cœur, quelque part, en imaginant, en fait. En imaginant, mais pas en imaginant n'importe quoi, quand même. Hein. On se base sur des résultats scientifiques, sur des expérimentations, des choses comme ça. Mais... pour vous et moi qui sommes là, comme ça, sans réfléchir forcément, on ne le voit pas. Pour nous, on est en plein hiver. On ne voit pas ce qui se passe sous terre.
Absolument.
Donc, voilà. Et pour parler de ces rythmes, on en reparlera souvent parce que ça fait quand même partie de la base de l'agriculture biodynamique, de la compréhension des rythmes naturels, des rythmes de la nature. Il faut qu'on a, en tant que jardinier et paysan, il faut s'adapter à ces rythmes et non pas imposer nos rythmes, nous, d'humains. « Oh là, faut que j'aille à Leclerc ou faut que j'aille à Carrefour, faut que j'aille dans une grande surface, vite, vite, faire mes courses, alors je vais faire ça vite ou je le ferai après. » Non, il y a des... nos rythmes humains n'ont plus rien à voir avec des rythmes naturels. Donc, il faut se réadapter, il faut réapprendre à les connaître. Donc, voilà, je voulais revenir un petit peu là-dessus.
C'est une intervention parfaitement calibrée, Didier.
Et on reparlera sûrement des rythmes un peu plus tard, parce que là, on vient de parler seulement de ce rythme entre Noël et le printemps qui amène... C'est un printemps intérieur, et vous pouvez peut-être le sentir en vous, aussi ce printemps intérieur qui commence à vous faire pousser des ailes et à se dire le printemps arrive, il faut que je fasse mes commandes de graines pour le jardin, dès qu'il va arrêter de faire froid, tiens, il faudrait que je fasse ça, ça, quand est-ce que je vais tailler mes arbres, on pourra parler de tout ça aussi, et ensuite aller vers le rythme de l'été et puis de l'automne et de nouveau de l'hiver. Ces saisons sont vraiment bien, bien importantes.
Il y a des choses à faire, tout de même, et malgré tout, c'est ce qu'on peut retenir de votre intervention, et notamment, je m'y arrêterai le week-end prochain, tenter de m'écouter pour voir ce qui se passe un peu à l'intérieur. Merci Didier Vallet. Et à très bientôt.
À bientôt, David.
Merci.
Pour le chêne.
Pour le chêne, l'écorce de chêne et les arbres. Merci Didier, belle journée et à dans deux semaines.
Merci, au revoir.
CFM Villefranche, le MAG.